L'ouverture de Guillaume Tell pour évoquer Amélie Meunier-Romilly et ses contemporaines, des femmes du 19e siècle qui ont pris forme et ont pris leur place dans l'histoire grâce à Femmes Tour et Femmes de Théâtre. Et avec nous en direct, je vous le disais, Michel Amoudru et Françoise Chevreau, toutes les deux membres de Femmes de Théâtre qui ont collaboré avec l'association Femmes Tour pour créer ce spectacle, ce qui est en fait un tour de ville théâtrale en ville de Genève pour donner vie à des personnages féminins dans certains lieux de la ville de Genève. Alors, on le disait tout à l'heure avec l'association Femmes d'Archives de la vie privée, donc qui est une des associations membres de Femmes Tour qui se trouve, qui existe pour toute la Suisse. Vous avez fait des recherches, créé des personnages. Est-ce que les femmes choisies l'avaient été avant ou vous les avez découvertes en cours de route ?
Non, Sabine Lorenz tenait à Amélie Meunier-Romilly. Et puis, elle a peut-être en parcours un peu perdu confiance parce que justement, pour elle, ce n'était pas assez une révolutionnaire comme en Allemagne ou en France. Et on lui a prouvé par A plus B qu'il n'y en avait pas d'autres en Suisse et qu'en Suisse, c'était peut-être plus gentil par rapport, comme révolution par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Et que Amélie, c'était intéressant parce que comme elle avait peint la bonne société genevoise, on pouvait parler pendant ce tour de ville de tous les hommes qui avaient fait partie en fait de cette société à l'époque, et puis on pourrait parler aussi des hommes révolutionnaires, et on a un petit peu tourné la difficulté en disant que à travers les hommes, où les hommes feraient ricocher un petit peu ce que les femmes avaient fait à cette époque, mais on était bien obligé de parler de la révolution des hommes, c'était important, et ce personnage centrale serait notre fil rouge. On n'avait pas besoin d'une femme vraiment révolutionnaire pour ça. On disait, mais on peut très bien parler de la bonne d'Amélie Meunier-Romilly. Comme ça, ça fera un dialogue contradictoire entre Amélie et sa bonne.
C'est ce qui m'a frappé d'ailleurs, puisque moi, je n'ai vu pour l'instant votre spectacle sous forme que de vidéo. Je me réjouis de les découvrir le 8 octobre ou le 6 ou le 8 octobre prochain. Mais ces femmes, par exemple, comme Joséphine Baldi, qui est une femme du peuple aussi que l'on va rencontrer, une lingère, ou bien Jeanne Mussard, l'institutrice donc, que vous évoquiez tout à l'heure, vous les connaissiez, vous ? Ou vous les avez découvertes comment ?
On savait qu'il y avait une rue Amélie Meunier-Romilly parce que les archives de la vie privée avaient, il y a quelques années de ça, édité un guide des femmes disparues de Genève. Donc, et Amélie Meunier-Romilly faisait partie de ces femmes-là. Quant à Jeanne Mussard, non. On a rencontré des dames pendant notre tour de ville qui la connaissaient, qui avaient lu certains de ses romans.
Et puis, Joséphine Baldis,
elle nous a été rapportée alors par une autre historienne qui a travaillé aussi avec nous, qui a aidé un peu Sabine, qui était un peu son assistante, si l'on veut, et qui est par hasard tombée sur un fait divers, qui est le procès de cette Joséphine Baldi qui a abandonné son enfant à la Grand Rue et qui probablement s'était retrouvée enceinte des œuvres d'un monsieur bien.
Son bourgeois de patron.
Voilà, elle avait déposé le bébé devant chez lui et pour que personne, enfin pour que surtout la femme du monsieur en question ne sache pas cette histoire, les bonnes se sont arrangées pour détruire le petit billet qui disait qui était l'enfant et tout ça. Bon, enfin, il y a toute une petite histoire là-dessus, mais on ne sait ni d'où elle vient ni où elle est repartie, cette Joséphine Baldi. C'est tout ce qu'on possède sur elle.
On n'avait pas le droit de faire de recherche de paternité à l'époque, justement. Et je crois qu'il y a un procès justement qui dit qu'on doit rechercher sa mère. L'enfant peut rechercher sa
mère,
pas
son père.
Mais pas son père.
Là, par exemple, dans le cas de Joséphine Baldi, vous avez dû utiliser, je suppose, des minutes de procès
que
vous
avez retrouvées dans les archives. Oui, tout à fait. Ce sont les témoignages en fait, du procès qui sont mis en lumière. Et puis quelques articles de loi.
Ça vous semblait important qu'on représente des femmes de tous les milieux sociaux, parce que c'est frappant qu'il y ait justement qu'on donne la parole aux bonnes à plusieurs reprises d'ailleurs.
Oui, parce que bon, un des autres personnages donc était de nouveau une aristocrate que donc les historiennes ont de nouveau ramené là pour arranger, enfin pour qu'il y ait plusieurs femmes représentées. Donc nous, on a essayé dans la mise en scène de justement une des aristocrates, elle apparaît pas en tant que telle. On a décidé que c'était ces bonnes qui parlaient d'elle.
Donc l'aristocrate en question, c'est Albertine
Necker de Saussure, c'est ça. Mmh. Oui. Qui, elle, en plus, est légèrement antérieure à la période révolutionnaire. Elle a préparé le terrain, si on veut, de l'éducation des filles.
Est-ce que le choix de ces femmes a aussi été dicté, ou le choix des événements, des moments dont vous avez parlé, vous avez choisi pour votre spectacle, était aussi lié à où vous alliez jouer? Parce que vous avez décidé d'associer ça à l'histoire d'un tour de ville. Les femmes des archives de la vie privée, entre autres Anne-Marie Kepoli qui était venue ici déjà, avaient dit « c'est souvent très dur de faire un tour de ville à Genève parce qu'il ne reste plus rien. Tout a mm-hmm. été démoli et on dit oui, là il y avait une industrie dirigée par une femme mais il ne reste plus rien. » Semble-t-il, problème qui existe beaucoup moins à Fribourg ou à Berne où ont lieu d'autres tours de ville.
On avait envie aussi que ce soit magique, que ce soit agréable pour les gens, que les gens puissent se représenter l'époque, évidemment, les personnages et leur maison. C'est pourquoi on part à la place de la Taconnerie. On avait presque envie de rester dans la vieille ville, mais la vieille ville, c'était la place des bourgeois. Et il fallait descendre sur les quais de Lille pour évoquer les lavandières et les femmes du peuple. Et certaines personnes nous ont dit, mais pourquoi n'êtes-vous pas restés
parce que c'est plus beau. Dans la vieille ville.
Bien sûr, et puis quand on descend vers la place Bel Air, il y a beaucoup de bruit, et ça, peut-être que ça peut casser le charme. Alors, on essayait de raccrocher un petit peu le public en leur expliquant que là ont eu lieu les révolutions entre ce côté du Rhône et puis l'autre côté, et ce bruit était pour nous un peu le bruit de la révolte qui grondait, et on essaie de l'évoquer tant bien que mal puisque nous sommes 6 sur scène,
oui. Donc plus une accordéoniste,
plus une
portraitiste,
et donc à 6 déjà pour évoquer la révolution, même si elle était petite à Genève et elle a duré 3 jours, il faut y aller parce qu'il y a du bruit, il y a les oiseaux au-dessus de nous qui font du bruit, il y a toutes les voitures.
C'est pas mal, c'est aussi un passage vers la modernité quelque part. Et voilà. Bon, c'est une station qui est courte et puis qui est vivante et qui finalement donne le pendant de ce qui se passe à Saint-Pierre.
Bon, peut-être que ça encourage les gens à se documenter un tout petit peu sur aussi à quoi avait l'air la ville de Genève il y a de ça quelques années, parce que moi qui ai justement eu envie d'aller fouiller un petit peu pour retrouver par exemple les bateaux lavoirs évoqués dans cette étape-là, eh bien c'est vrai que c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que le dernier bateau lavoir date de 1921, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils ont été détruits. Et si ce quartier de Saint-Gervais, de Coutances, a été tellement démoli, c'est qu'on s'en est tellement pas occupé pendant des années et des années, puisque le peuple y croupissait, on n'allait pas s'en occuper. C'est pas un hasard qu'il ait été rasé, parce que c'était même une revendication des habitants. On veut plus vivre dans cette misère crouille, démolissez ça, qu'on vive mieux. C'est évidemment pas des revendications qu'avaient les gens de la vieille ville qui vivaient dans leurs hôtels particuliers, où nous pénétrons grâce à Albertine Necker de Saussure.
Et il faut savoir aussi que ces lavandières payaient leur place sur les bateaux, payaient leur savon. Françoise évoque justement à plein palais
à Saint-Gervais
un accident qui est arrivé justement à ce moment-là, et les femmes sont mortes, et elle évoque aussi le fait qu'on a perdu du linge.
Linge a été retrouvé.
Le linge,
qu'on compte sur la charité publique pour s'occuper des orphelins ou des parents des femmes qui sont décédées dans l'accident.
Alors, est-ce que vous seriez d'accord, sans tout dévoiler du spectacle, de nous faire juste un petit voyage pour évoquer simplement les thèmes que finalement vous avez choisis à chaque étape, résumer un peu le thème abordé ou l'idée essentielle, la rencontre essentielle de chaque étape? Alors, parce que je crois que ça fonctionne assez comme ça, non?
Dans la première étape, donc, c'est à la place de la Taconnerie, près de la maison de la Bourse, où Amélie a pris des cours avec son maître, Massot. Et on évoque, à côté de la cathédrale, un dialogue entre son mari pasteur et David Munier, donc, et Amélie. Et puis la bonne d'Amélie vient raconter ce qui se passe chez elle et les amis en fait qu'elle reçoit à cette époque.
C'est là qu'on a un petit passage aussi de Töpfer, qui était très ami donc avec David Munier. puis après, on va donc dans la cour, dans une cour de la rue des Granges, dans la maison Reverdin. On n'a pas pu aller dans la maison de Saussure qui est en réfection. Donc c'est là qu'on parle d'Albertine Necker de Saussure, qu'on évoque les problèmes de l'éducation des filles. Et il y a deux personnages masculins de l'État de Genève à cette époque qui ont un dialogue contradictoire sur faut-il ou non enseigner ces demoiselles.
Si je me permets de mettre un petit peu d'accordéon dans le fond, c'est qu'à chaque étape, on se fait entraîner.
On se balade par un accordéon, exactement. Et puis on a donc à chaque étape une portraitiste qui croque ce qui se passe.
Les différents personnages, les différentes scènes, et elle expose à la fin tous ses dessins croqués sur le vif.
Une caricaturiste, et ça c'est très très chouette de revoir, enfin d'avoir ce regard-là.
Un petit peu d'une artiste d'aujourd'hui, voilà.
Tout à fait. Mm-hmm.
Toujours au son de l'accordéon, on se retrouve.
Ensuite, on se retrouve dans la Grand Rue où on évoque justement le Joséphine Baldi et son procès. Et puis, on va à l'hôtel de ville. Et là, c'est aussi un procès qui est évoqué avec une demande d'Amélie Munier-Remilly à un noble de Genève, une demande d'aide financière pour les jeunes filles de l'époque qui venaient de la campagne en fait et qui allaient devenir de pauvres filles perdues si on ne les aidait pas, si on les recueillait pas dans des foyers, parce que même quand elles allaient chez les particuliers profitaient de leur argent et les laissaient sortir très très jeunes, elles se dévoyaient.
Et puis bon, ça se termine en chanson, là, avec plusieurs femmes du peuple aussi qui sont représentées dans les témoignages du procès de Joséphine Baldi. Après, on descend direction Place Bémont, Cour Bémont d'ailleurs, derrière Confédération Centre, pour parler de Jeanne Mussard, qui était donc une institutrice de l'époque et qui avait son école dans une de ses rues, malheureusement disparue, mais proche de la Place Bémont, qui est une femme qui a dû beaucoup lutter pour s'en sortir. Elle avait un mari violent dont elle a divorcé. Et elle s'est mise à écrire des romans, qui sont des romans à l'eau de rose, très romantiques, à l'excès. Mais elle n'a malheureusement pas réussi à vivre bien de ça. Et elle a dû finalement quitter la Suisse et on perd sa trace. Elle est partie comme fille au père, gouvernante en Russie, ce qui était le cas de beaucoup de Suissesses à l'époque qui allaient garder des enfants dans d'autres pays. Et puis voilà, c'était donc Jeanne Mussard à la Cour Bémont.
Et apparaît déjà là James Fazi, qui va donc être le héros
elle a été,
de la révolution.
Elle a soutenu Jeanne Fazi. Alors elle, c'est entre guillemets, je pense, la plus révolutionnaire des quatre femmes dont nous parlons. Mais bon, il n'y a pas une trace non plus de ce soutien. Bon, quelques lettres qu'elle lui écrit. Elle essaye aussi d'avoir des appuis pour pouvoir faire éditer ses bouquins qui ont été édités à Genève. Elle a écrit beaucoup, beaucoup. Il y a des poèmes, des tas de choses. Elle voudrait monter à Paris. Et alors, c'est les éternelles revendications et demandes de soutien auprès des autorités genevoises qui, déjà à l'époque, préféraient que les gens viennent de Paris plutôt que d'aider ceux d'ici à sortir de là. Ça, on a bien reconnu le problème. Mais elle a beaucoup lutté.
Et ensuite, alors, on change de monde et on va rejoindre le peuple à Saint-Gervais.
Voilà, et là, une femme du peuple donc évoque l'accident des Lavandières. On a James Fazi, on a toute la révolution qui gronde, qui monte.
Donc, révolution 1841 à Genève.
46.
Et là, ça sera les jours pile, c'est le 5, 6 et 7 octobre. On n'a pas fait exprès, mais on est en plein dans les dates. La reprise, on est jour pour jour. C'est beau, non ?
Extra, ben oui, ça c'est.
Faut le faire.
Pour une fois, c'est vraiment. Ouais.
Et on entend donc David Munier et ses éternels sermons.
Donc, il y a le mari de la fameuse Amélie.
Voilà.
On a été assez perverse dans le sens où on a fait dire à David Munier des choses qui ne sont pas de lui, qui sont d'un certain Monod. Édouard Menot, qui est un penseur de l'époque et qui était mais vraiment terrible avec les dames.
Il a écrit « Les fondements renversés », titre très éloquent. Et Amélie aussi lit une lettre qu'elle a envoyée à son fils où on voit sa propre révolution. Elle a perdu ses trois enfants. Donc, et elle raconte un peu comment elle vit, elle, cette révolution, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'argent. Toute sa vie, donc, elle a fait des coupures, vendu des dessins, elle fait vivre sa famille parce que son père est mort. Donc, depuis l'âge de 13 ans, elle a
donné des cours,
elle a aidé sa famille. Et puis, elle est partie à Paris donc, pour apprendre, évidemment, mieux son métier de portraitiste, de peintre. Et puis, jusqu'à sa mort, très, très tard, elle a vécu tout le siècle. Elle est morte, je crois, à plus de 80 ans. Mm-hmm. Et elle dit, justement, j'ai beaucoup travaillé, mes tableaux étaient mes babillards, ils me parlaient toujours, c'était délicieux. Et je trouve que c'est très beau.
Cette fois-ci, Édith Piaf nous emmène à Hambourg.
Te quiero mucho, Liebling, come dormit mir. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg ou bien ailleurs, qu'à tous les gars en mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit, je t'aime à plus finir, laisse donc là tous tes marins, laisse donc la mer et puis viens, moi j'ai du bonheur à t'offrir. Ma petite gueule, c'est à Hambourg, au ciel de pluie, dans les bastringues matelots, que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça j'écris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. So long boy, adios amigo, nachher Schatz. Au revoir petite gueule.
Avec les femmes de théâtre et femmes des archives de la vie privée, nous nous promenons dans Genève, mais avec Édith Piaf, c'est dans divers villes, c'était Paname, c'est Hambourg, ce sera Jérusalem et peut-être une ville inconnue. Alors, Françoise et Michel, vous me disiez, mais off, cet accordéon-là, c'était bien nostalgique, c'est pas tout à fait l'esprit du spectacle. C'est vrai que parfois, il y a des pages très rigolotes.
Non, oui, il faut dire que c'est un spectacle où les gens s'amusent, où il y a beaucoup de distance par rapport à ce qui est dit. Et c'est vivant, on voit. En plus, c'est beau, parce que les lieux qui ont été choisis par les historiennes sont des lieux magnifiques. On a des costumes superbes aussi, et si la météo est avec nous, parce que quand on l'a créé au mois de mai-juin, on a eu une chance extraordinaire parce qu'il a tout le temps fait beau. Donc il n'y a eu que la dernière représentation, il y a eu quelques gouttes de pluie, mais enfin on a pu jouer quand même. Et là, c'est vraiment très très vivant et varié. Il y a l'accordéon qui nous entraîne, il y a des chansons, il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de moments drôles. Voilà, il faut le souligner quand même.
Et puis l'histoire du tour de ville au niveau théâtral, le fait de se déplacer, ça vous a beaucoup plu ça à vous comme femme de théâtre?
Crevant.
C'est très crevant.
C'est un marathon.
C'est 2 heures de marathon parce qu'il faut bien sûr courir à la station prochaine avant que les spectateurs arrivent.
Se changer.
Alors déjà il y avait des problèmes aussi pour changer les costumes. Alors on a résolu les problèmes. On arrive à se changer très rapidement et à changer de personnage aussi. Aussi, puisque bien sûr nous sommes 6, mais il faut jouer un peu tous les personnages, autant les personnages principaux que les bonnes.
Il faut dire que c'est Martine Burer, donc notre metteur en scène, qui a réglé pas mal de ses problèmes, notamment celui aussi de trouver une loge dans la vieille ville, ce qui n'était pas évident du tout. On avait pensé à la cathédrale, mais finalement, on n'a pas osé demander. Bon, alors heureusement que des amis bienveillants ont des appartements pas trop éloignés du point de départ. Mais après, il faut aussi remonter avec tout le reste des costumes depuis... Saint-Gervais, donc depuis la place de Lille, je veux dire, pour aller se rechanger. Il y a tout un matériel à transporter. C'était un gros, gros boulot d'organisation et de mise en espace de tous ces textes.
Mais à votre avis, c'est un plus par rapport au théâtre de rue que vous aviez fait à d'autres occasions, par exemple avec les petites femmes silencieuses?
C'est beaucoup plus crevant parce que alors là, on parle tout du long. Et puis alors, je dois dire qu'il faut vraiment mettre la gomme, la puissance. On a des messieurs avec nous, donc Gilles Azria et Philippe Nicati, qui interprètent les hommes du Tour de Ville, qui ont un bel organe, si j'ose dire.
Vocal.
Donc nous, il faut qu'on s'accroche pour être à la hauteur, pour pas qu'on ait l'impression que tout d'un coup, on a baissé le son quand c'est nous qui prenons la parole. Et, on a quand même une voix, un organe différent, dirons-nous. Et voilà, c'est très éprouvant physiquement. C'est un marathon et il faut vraiment avoir des vitamines sous la main.
Mais pour moi, le théâtre, c'est très physique. Donc là, vraiment, le théâtre prend vraiment son sens. Et il faut être en bonne forme physique. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous courent pour avoir la forme.
Ah, tu veux dire comme entraînement?
Oui. Ah, ben, bien sûr. Oui. Je crois qu'il faut une bonne forme, une bonne voix. Il faut être tonique. Et on est vraiment créateur. Parce que non seulement on interprète le personnage, mais en plus... On crée nos sons, nos syllabes. Il faut vraiment bien les former, bien les forger pour que ce soit amplifié et que le public puisse entendre. Bon, le public est assez proche quand même. Mais un jour, on a eu à la place de la Taconnerie un mariage qui est sorti de la chapelle qui était là juste à côté. Il y avait 120 personnes. Vous imaginez les décibels que ça prend dans la rue. Et on a dû être tenu aussi ce jour-là, de même quand on passe une voiture. Et je crois qu'il faut être pleinement en possession donc, de ses moyens physiques et vocaux et de comédien et de comédienne. Je crois que c'est important.
Le public se laisse facilement entraîner d'une étape à l'autre. Il n'y a pas des gens qui viennent juste voir un bout et qui partent après.
Non, on avait peur de ça au début. Finalement, non, parce qu'ils se laissent accrocher. Je crois qu'ils se prennent au jeu et puis ils ont envie de voir la suite. En plus, bon, c'est pas un spectacle très long. Donc, on suit le parcours agréablement. C'est en tout cas les retours qu'on a eus.
Les gens ont eu du plaisir de revoir leur ville de cette manière, de revoir des coins qu'ils avaient oubliés ou qu'ils n'avaient peut-être pas vus comme ça. Et je crois que...
Oui, puis il y a plutôt des gens qui prennent le train en marche, en fait, qui arrivent ils sont plus nombreux à l'arrivée qu'au départ. Souvent, on a des squatters.
Et les femmes alors, est-ce que les gens, le public,
on a beaucoup
découvrent
de femmes.
Avec non, mais je veux dire, est-ce que les gens découvrent avec stupeur qu'il y a des femmes qui font partie de l'histoire de leur ville? Ou est-ce que finalement...
Alors bon, dans le public, on a un problème, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont venues. C'est difficile, on le sait de toute façon au théâtre de faire venir des hommes. Hein. Dans les salles de spectacle aussi, on voit toujours une majorité de femmes. Donc on a des échos plus féminins que masculins. Je ne sais pas, moi je n'ai pas entendu d'étonnement. De la part des femmes, oui, mais d'hommes, non.
d'étonnement dans le sens, ah, je ne connaissais pas cette femme peintre, je ne sais pas ce qu'elle faisait, ou je ne connaissais pas Jeanne Mussard. Mais une fois, on a eu justement, nous, la stupéfaction de voir que quelqu'un avait lu ses romans. Donc,
on a eu quand même la petite fille d'Amélie Mouni-Remy,
oui, ah oui,
qui est venue nous,
ah
voir.
Oui.
Enfin, l'arrière petite fille.
Petite fille et qui dessine aussi. Et justement, demain, on va faire une lecture autour d'Amélie Mouni-Remy à Preny-Chambézy. J'espère que son petit-petit-petit-fils va amener quelques toiles qu'il
ben
a
oui,
chez lui.
Oui, ils doivent bien en avoir.
Oui, ils en ont, mais on aimerait bien qu'il les amène, et sa petite, 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 petite fille va amener donc ses dessins pour qu'on compare un petit peu, qu'on regarde ce qui se fait aujourd'hui par rapport à ce que Amélie faisait avant.
Les lectures, vous avez évoqué déjà ça tout à l'heure, vous disiez on est allé à Bâle, etc. C'est aussi une forme théâtrale que vous aimez bien utiliser pour parler, pour lire des textes. Je ne sais pas s'ils sont de femmes en particulier, mais enfin, est-ce que c'est une forme que vous utilisez couramment ?
C'était une forme justement utilisée par l'association Femmes de Théâtre pour... dont on parlait tout à l'heure au début de l'émission, et je crois que ça coûte bien moins cher donc de pouvoir faire connaître un auteur, de faire connaître ses personnages à travers une lecture spectacle. Si une lecture spectacle peut se travailler en une semaine, en revanche un spectacle se travaille en deux mois, donc les moyens employés ne sont pas les mêmes, et pourtant on peut toucher quand même un certain public qui aime bien les lectures, qui aime bien parce que pour eux, c'est une forme de suggestion.
Et puis, on essaie toujours quand même de faire des lectures qui soient à mi-chemin entre la lecture proprement dite et la mise en scène. On propose quand même toujours du jeu, on propose des axes pour les personnages, pour les idées et tout ça. Donc finalement, c'est assez vivant comme lecture et ça permet d'imaginer beaucoup. Je crois que c'est ce que les gens apprécient dans ce genre d'exercice.
On s'est confronté à Zurich justement à des lectures suisse-allemandes, des lectures suisse-italiennes, et puis les nôtres donc étaient les plus jouées. Les autres étaient beaucoup plus lues. Il y avait moins de propositions de jeu à travers la mise en lecture.
Alors, on va peut-être rappeler les événements importants. Je vois que vous évoquez dans le petit papier papillon qui annonce la reprise exceptionnelle de ce tour de ville théâtralisée, un livre qui a pour titre Pognon, piété, patience, édité aux éditions Métropolis. Est-ce que vous nous en diriez deux mots ?
Alors, c'est le livre qui a été édité par Femmes Tour à l'occasion donc de cet anniversaire du 150e de la nouvelle Constitution, dans lequel alors on peut retrouver toutes les femmes qui ont été abordées dans tous les tours de Suisse. Et il est important de souligner quand même qu'en Suisse allemande, d'après ce que j'ai compris la dernière fois que je suis allée à Berne écouter les historiennes dans la langue
de Goethe.
Oui, non, justement pas. Si ça avait été Goethe, ça aurait encore été. Mais là, c'était beaucoup plus difficile. C'était les dialectes, n'est-ce pas ? Donc, il y a eu des femmes... Elles étaient beaucoup mieux organisées que les romandes, déjà, à l'époque. Elles avaient fait des réseaux entre elles. Et apparemment, il y avait quand même des révolutionnaires. Des femmes beaucoup plus impliquées dans ces choix politiques. Alors, dans ce livre, que les romandes ont traduit « Pognon, piété, patience », bon... C'est un titre comme un autre. Il y a toutes ces femmes, mais c'est aux éditions Métropolis. Et je crois que vous deviez avoir la date d'un vernissage.
Oui, c'était le vendredi 25 septembre, effectivement, à la Société littéraire à la rue de la Corretterie. Ouais. Mais bon, on annonce le livre.
Voilà, mais enfin, il est très beau, il y a des photos, c'est bilingue ou trilingue même, et c'est intéressant de voir tous ces personnages.
Livre qu'on trouve sûrement chez les Inédites à Carouge.
Oui, tout à fait.
Sûrement. Alors, on va rappeler donc d'abord le premier rendez-vous au niveau de la chronologie. Donc, vendredi 2 octobre, la lecture spectacle, vous disiez donc à Chambézy, c'est ça ?
La mairie de Preny-Chambézy, c'est ça ? Non, à la salle communale.
La salle communale
de mairie. Voilà. Et donc, ça a lieu à 20h30, entrée libre. Et puis, alors, les deux tours de ville repris donc le mardi 6 octobre et le jeudi 8 octobre à 17h30. Et vous disiez, le spectacle, ça dure à peu près
1h50.
Et le rendez-vous
17h30 à la place de la Taconnerie.
Voilà, alors on peut réserver, il faut réserver ou on peut réserver ?
C'est mieux de réserver.
le cœur des femmes de théâtre. C'est mieux de réserver.
Non, bon, les places ne sont pas comptées, mais si tout d'un coup, il y avait 500 personnes, peut-être qu'à la 501e, on dirait qu'il faudrait mieux revenir le lendemain.
La rue est pleine, oui, voilà. 500. Alors, pour réserver, appelez les archives de la vie privée au 301-10-31. Je répète, 301-10-31, 022, parce que c'est à Genève, pour réserver donc votre place dans la rue. Au début, c'est la place de la Taconnerie, 17h30, mardi 6 octobre ou jeudi 8 octobre. Et je vous remercie d'être venue en direct pour nous raconter toutes ces belles histoires de femmes. Merci,
merci
Michel.
Merci, merci Françoise.
Au revoir. Et pour finir, eh bien, nous, on s'en va avec Edith Piaf à Jérusalem.
C'est pas seulement ma voix qui chante, c'est d'autres voix, une foule de voix. Voix d'aujourd'hui ou d'autres voix, des voix marrantes, ensoleillées, désespérées, merveillées, voix déchirantes et brisées.